À 17h41 minutes. Salut Pierre-Yves.
Salut Marc-Claude.
Alors, Couche-Tard rachète des actions détenues par Métro. Pas mal d'actions.
Oui, parce que Couche-Tard, dans le fond, est un des partenaires là-dedans. Mm-hmm. Métro se débarrasse de ses actions. Pourquoi? Ben, il faut qu'on achète Jean Coutu. Et pour avaler Jean Coutu, ça prend de l'argent. Hey. Donc, oui, c'était annoncé la semaine passée.
Oui.
Donc, il y a ça, donc on rachète, donc ça prend de l'argent, donc on vend.
J'étais pas en onde, mais je savais. Je lis tout même quand je suis pas en onde.
OK. Et puis, dans le fond, Métro se dit, OK, pour m'en départir, qu'est-ce que je fais? On appelle, on fait quelques téléphones. Donc, la Caisse de dépôt et de placement du Québec en a pris une partie. Couche-Tard en a racheté une petite partie. Et on en a émis d'autres. On en a vendu d'autres à des courtiers, donc des banques qui vont les revendre à des clients. Tout ça pourquoi? Pour réussir à avoir 1,55 milliard de dollars dans la transaction. On va garder un peu d'action. Ce qui est intéressant, c'est la Caisse. Bon, on dit pourquoi la Caisse achète du Couche-Tard?
Ouais.
Premièrement, on est dans un creux d'année dans la valeur du titre. Là. On était rendu dans un creux où le prix de l'action était en bas de 59 $, donc ça valait la peine de payer à ce moment-là. Aussi, le titre avait déjà atteint 68 au cours des 12 derniers mois. On se retrouve aussi dans une situation où la Caisse veut des flux monétaires récurrents. Un dépanneur, c'est bon pour ça. Ça génère des dividendes récurrents, ça vend de façon récurrente, c'est pas frappé par Internet ni la concurrence. Il y a personne qui va se dire « Oh, mon sac de chips, je vais l'acheter en Nouvelle-Zélande, je vais le faire venir par Internet. » Il y a personne qui se dit « Hey, mon essence, mon
ouais,
Dieu
je vais aller aux États-Unis ou je vais aller en Ontario ou je vais aller
ailleurs. »
Ben,
c'est ça, je vais aller sauver ailleurs. Donc, c'est l'avantage. Le dépanneur qu'on condamnait il y a quelques années est devenu la source d'approvisionnement local et Couche-Tard a la brillante idée de vendre un modèle d'affaires même aux fournisseurs de matières premières. Par exemple, les chips, la liqueur, la bière, tout le monde, dans le fond, rémunère en quelque sorte Couche-Tard pour vendre dans les dépanneurs tellement que c'est une belle vitrine. Les gens s'habituent à voir, c'est comme une publicité. Donc, un dépanneur Couche-Tard, c'est tellement standardisé que même les produits qui sont dans les tablettes sont un type de publicité. Donc, les Couche-Tard ont des prix super avantageux parce qu'ils fournissent aux fournisseurs une espèce de vitrine dans des centaines et des centaines de magasins. Donc, ça permet aux fournisseurs d'avoir une belle visibilité.
Non, puis c'est vrai qu'on est rendu même avec des attentes hein, quand on s'arrête à un dépanneur. Si on est sur la route ou si on voit une affiche Couche-Tard, on a des attentes. On s'attend à trouver certains produits frais, des choses comme ça, alors que quelques années, on n'aurait même pas pensé à ça.
Oui, ça fait un gros clash aussi avec le reste du type de dépanneur qui est un peu plus laissé à l'abandon.
Oui, effectivement.
D'ailleurs, Couche-Tard, là, pour 12 semaines, là, terminé le 23 juillet, au niveau des revenus, 9,9 milliards de revenus et 365 bénéfices nets en millions. Donc, ça va assez bien.
Bon, là-dessus, on change de sujet. Tu vas nous parler de TaxCoop ou TaxCoop, mais ça doit être TaxCoop, qui est une conférence mondiale. Mais c'est quoi exactement? Puis ça s'adresse à qui?
C'est une conférence qui s'adresse à l'entièreté du monde, mais surtout aux spécialistes en fiscalité, aux autorités, aux citoyens ordinaires qui veulent comprendre la fiscalité mondiale. Et là, on fait surtout une conférence non partisane qui, le but, c'est de parler de concurrence fiscale. Parce que partout à travers le monde, on a mondialisé nos activités. Mais le problème, c'est qu'on a aussi laissé tomber la fiscalité. On s'en est servi comme au appât. Donc, d'un côté, on mondialise puis on va te faire produire ailleurs parce que ça coûte moins cher.
Ouais.
Et en plus, il y a des États qui en profitent pour donner des taux d'impôt très, très faibles à des entreprises pour qu'ils viennent s'installer chez eux. Donc, les paradis fiscaux, par exemple, ou des pays à fiscalité optimale ou avantageuse. Donc, on a des conférences. Et ça, c'est une conférence qui était à Montréal il y a 2 ans. Et ce sont 4 femmes québécoises qui ont lancé ça. Et là, ça se déplace aux Nations Unies. Donc, évidemment, imagine avoir des conférenciers de renom beaucoup plus facile quand tu dis « ça va avoir lieu aux États-Unis plutôt qu'à l'Université Concordia ». Tu comprends un peu, là?
Mm-hmm.
C'est un peu plus glamour.
Mm-hmm.
Mais on va parler de plein de choses. Donc, l'imposition des individus, des PME, des multinationales. Et ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir regarder ça en ligne. Donc, les gens qui s'intéressent, attention, si vous tapez « TaxCoop » dans Google, vous risquez de tomber sur « TaxiCoop », qui n'est pas le même service. Donc,
on y arrive facilement quand même.
Oui, lundi, ça va être diffusé.
Je suis sur la page en ce moment.
Donc, ça va être diffusé, tu vas pouvoir voir ça en ligne de chez toi. Donc, tu sais, les enjeux internationaux, plutôt que tomber dans le populisme et la démagogie, on va tomber dans des experts qui nous parlent de leur point de vue, de leur réalité. J'étais allé il y a 2 ans, puis il y avait, par exemple, il y avait un chef d'État américain qui disait, écoutez, nous, on a diminué les impôts, voici l'impact à court terme. Donc, ça nous permet aussi de voir des gens qui ont des pensées opposées à la nôtre, mais qui viennent exposer de façon assez objective et tenter de voir qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution. Parce que le problème, c'est vraiment ça. Les États, on a beau vouloir collaborer, la fiscalité est une façon d'avoir une souveraineté et d'imposer nous-mêmes. Donc, évidemment, c'est à suivre, mais c'est intéressant de voir que on s'intéresse à la concurrence fiscale mondiale et des conséquences.
Oui, puis les fondatrices quand même, hein, Brigitte Alpin, Alison Christian et Lynn Latulippe et Louise Otis, ancienne juge à la Cour d'appel du
Québec.
Quatre
femmes, hein?
Oui,
ça,
oui.
Ça fait changement
un peu. Des femmes solides à part de ça. Ben oui, effectivement, c'est rafraîchissant de voir ça. En terminant, Tesla, on rappelle 11 000 modèles, puis c'est pas pour l'électricité qui fonctionne pas, là.
Non, c'est un petit câble, ça a l'air, de, sur l'installation entre 2016 et 2017 sur un câble sur un siège arrière. Donc, il n'y a pas eu de problème d'accident, mais on fait un rappel. Mais c'est intéressant en même temps de regarder Tesla. Tesla, l'action est à 356 $, relativement stable, mais évidemment, la compagnie ne fait pas encore d'argent parce qu'on développe des modèles. Donc, tu sais, par exemple, pour un trimestre, on fait, je sais pas moi, 2,3 milliards de revenus de dollars américains, mais on fait des pertes de 337 millions. Pourquoi? Parce que développer la voiture électrique est extrêmement cher. Et le volume n'est pas encore suffisant pour justifier les revenus.
Ouais.
Mais évidemment, ça s'en vient. Tranquillement, pas vite. Les gens sont très, 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 je te dirais même apôtres de Tesla. Donc, quand il y aura l'offre à un prix raisonnable, je pense que les clients vont être au rendez-vous.
Je suis sûr. Merci beaucoup, Pierre-Yves.
Salut, Marc-Claude.
À la prochaine.